Apéro spécial Wolves.
Les loups. Les loups, les loups, les loups. Sont-ils encore des prédateurs? Oui, quand même, peut-être. Si t'es petit, que t'es pas trop gros.
et que tu cours
pas très vite.
T'as coupé
attention au Minnesota Timberwolves.
Avez-vous un bilan positif? Si oui, bienvenue dans le Minnesota. Avez-vous un bilan négatif?
À
ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile.
Sauf si tu t'appelles les Kings.
Tout est permis.
Auquel cas, t'es bienvenu.
Auquel cas, t'es toujours bienvenu. On s'installe évidemment tranquillou pour faire ce petit apéro spécial Timberwolves. Vous le savez, on est dans l'entre-deux spécial Thanksgiving. Il n'y a pas de match le jeudi soir. Il n'y a pas eu de match. Et donc, du coup, on est là pour parler de certaines équipes. On a parlé des Warriors. On continue notre grand tour. Moi, j'aime bien le début de saison parce qu'on fait un peu l'état des lieux.
C'est ça, c'est bien. On regarde un peu ce qui se passe. Quoi. Là, on a une petite vingtaine de matchs.
Ouais, on se pose des grosses questions. Quelles sont ces équipes qui ont peut-être été en finale de conférence, qui aimeraient y retourner? Comment ça se passe par rapport à la compétition?
Qui sont censés devoir pouvoir y retourner, en tout cas.
Absolument. Et donc, on est là pour parler de nos amis de Minnesota aujourd'hui, puisqu'on est sorti d'une semaine particulièrement compliquée. On ne doit pas se mentir. Nous sommes sur une équipe qui a un bilan de 10 victoires pour 8 défaites. Mais ce qui a fait le cœur de l'actu, ce sont évidemment ces dernières défaites. On va mettre celle contre Casey de côté parce qu'elle a été quand même.
Ils ont été plutôt bons.
Assez combatifs et ils ont été bons.
Ouais.
Peu d'équipes qui ont autant chamaillé le Thunder sur ce début de saison, on va pas se mentir.
Clair.
Par contre, on était à la base quand même sur deux atroces défaites à Phoenix et à Sacramento et qui venaient ponctuer notamment cette situation. Certes, Sacramento, c'était chiant, mais cette situation qui a été assez loufoque et discutée dans le vestiaire des Wolves avec certains reporters, c'est en vous montrant le cadre notamment. Très, très grosse canine de la part des Wolves sur les équipes plutôt de bas de tableau, avec des équipes vraiment avec des bilans atroces du type les Nets, les
Indiana.
Hornets, les Pacers, bravo le Jazz, deux fois les Kings ou à Utah. Et par contre, lorsqu'on affronte l'élite, Lakers, Nuggets, Lakers, Knicks, Nuggets, Suns, puisque vous faites partie de l'élite, et donc là récemment Thunder, on a un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde à Minnesota, et donc fallait qu'on parle d'eux un petit peu.
Ouais, puis on a un sujet qui revient pas mal, c'est qu'en gros, les petites équipes qu'ils ont battues, ils ont réussi à bien les tabasser. Je veux dire, les Mavs, ils les ont tabassés, les Kings, bon, avant le dernier match, ils les avaient quand même bien tabassés. Tu vois, donc ils ont, en gros, des victoires dans lesquelles il y a pas trop de suspense, quoi. Tu mènes 2-15, voire 2-20, tu tabasses l'adversaire, et puis ça va. Et par contre, contre les plus grosses équipes, soit ils se sont fait accrocher, ok, et on s'est retrouvé dans des matchs un peu serrés, on va en reparler. Soit ils se sont fait défoncer, genre ils se sont fait battre, quoi. Il y
comme
avait 15 points d'écart, exactement. Là, je suis en train de regarder les scores. Bah là, ils ont perdu de 16 contre les Lakers, de 13 contre les Nuggets.
Moi, c'est celui contre Denver à domicile. Vraiment, je me suis dit, pff,
voilà.
Chier, normalement, ça c'est cool.
New York les a tabassés de ouf. Les Suns, ça a été serré, on va y revenir. Les Kings, ça a été serré, on va y revenir.
Double choc.
Voilà. Différent, mais oui. Et donc là où je voulais en venir, c'est que il y a tout un sujet où quand tu regardes les ratings, bon, t'es qu'à 10 victoires, 8 défaites, bon, mais t'es quand même en positif et tout. T'es dans une pace un peu mid, mais qui est assez classique finalement chez ces Wolves. T'as toujours une top 10 défense en termes de rating, 9e rating aujourd'hui. T'as le 11e rating offensif. T'as Anthony Edwards qui est quand même assez chaud, même s'il a raté quelques matchs, mais il est assez chaud sur ce début de saison.
Commence à préchauffer là, après avoir eu un énorme Julius Randle.
Il y a eu un gros Julius Randle
très,
pendant
très
qu'Anthony Edwards n'était pas là. Là, depuis qu'Anthony Edwards est revenu, Julius Randle, il est un peu moins dedans. Mais...
Bon, en tout cas, Edwards est très très chaud là.
Edwards est très chaud. Ils sont capables de défendre. Ils ont toujours leur gros fond de courte. On avait parlé pendant la preview du sujet qui est là pour épauler Anthony Edwards à la création dans le backcourt. Je précise bien dans le backcourt parce qu'en fait, oui, Randle peut faire des choses. Et Anthony Edwards peut être un ball handler tout à fait fort et tout machin. Il y a quand même un sujet là qui revient, et notamment dans certaines défaites récentes, c'est... Il y a un sujet au poste 1. Il y a un sujet...
Ah bah je te confirme.
Il
n'y a pas 24 heures qui passent sans qu'il y ait une rumeur de... Qui aimerait être meneur chez les Minnesota Timberwolves? On avait démarré à peine la saison qu'on a vu Chris Finch dire « On va changer tout de suite les choses ». Merci Mike Conley, on a fait un apéro Warriors, on a parlé de Al Horford.
Dante DiVincenzo, titulaire.
Exactement, on a parlé de Al Horford qui avait 257 ans. Ouais. Mike Conley, il est né avant la Révolution française. Là, c'est très très compliqué. Joueur de la même draft, je crois.
Je sais pas.
1984, je crois, ou 87. Non mais la draft, je crois, de KD, hein, je crois, ça, si je dis pas de conneries. ça doit être ça.
Ouais, c'est possible, c'est possible. Je l'ai pas en tête, mais oui, bien sûr. En tout cas, ils sont plutôt jeunes.
Ils sont dedans. Et du coup, Dante DiVincenzo a été intégré dans le 5 majeur, donnant de facto le rôle de meneur à Anthony Edwards. Et il y a des choses qui, moi, sur le papier, m'ont plu dans les tentatives de création d'Anthony Edwards. C'est-à-dire que dans l'évolution de son jeu, on a vu l'année dernière beaucoup de tirs à 3 points, les dernières années, là, beaucoup d'évolution là-dessus. Il y a eu tout un tabassage médiatique sur le fait qu'il avait beaucoup travaillé sur son jeu au poste et que là, on allait le faire travailler à la main. Minnesota essaye.
Mais sa prise de décision aussi.
Exactement. Mais il y a ce sujet meneur qui n'est pas réglé parce que non seulement ce que peut apporter Mike Conley n'a pas été remplacé, qui sont des intangibles au sein même du jeu, hein. C'est vraiment un glue guy, il va apporter de l'expérience, un petit peu de défense quand il peut, du shoot à 3 points et de la stabilité auprès du groupe. Dante DiVincenzo a des qualités mais il n'a pas celle-là, et la façon de vouloir responsabilité, notamment Rob Dillingham ou d'autres gars en sortie de banc, n'a pas été aussi intéressante, moi je trouve, sur les 8 saisons que ça.
Non, et puis en plus, bah après moi je sais pas si on doit être inquiet ou pas de ça, ou si c'est quelque chose qui peut se travailler, un petit trade ou un travail sur le groupe et tout.
J'essaie de travailler sur le groupe là.
Rappelle-toi les derniers playoffs, moi ils m'avaient surpris justement dans leur capacité à être bon dans le money time et à savoir gérer la prise de décision d'Anthony Edwards, la prise de décision de Julius Randle, voire la prise de décision de Jaden McDaniels, tu vois ce genre de...
Pareil, faire un début de saison de fou furieux avant de s'être blessé. Oui.
Avant de se blesser, exactement, mais donc du coup, moi il y avait ce côté, je me dis ok, il leur faut sûrement un meneur, mais ils ont quand même de la réserve et ils ont quand même des mecs capables. Là, sur le début de saison, il y a un sujet dans le money time qui leur a fait perdre des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Contre les Suns, ça va au-delà du money time. C'est un choke de malade mental. C'est-à-dire que c'est genre...
De 10 à 80, 50 secondes de la fin.
Ouais, 50 secondes de la pointe à 8, je crois.
T'as 8 points d'avance, 50 points d'avance, secondes de la fin,
et tu finis à moins 1. Et là, il y a des erreurs factuelles. C'est-à-dire que là, il y a des remises en jeu. Bah, Anthony Edwards, le pauvre, remise en jeu catastrophique. Après, il y a des erreurs de défense, des erreurs de placement. Après, il y a des lancers qui rentrent pas. Donc là, on est dans le domaine du choke fort. Donc ça énerve et en même temps... J'ai envie de dire, c'est presque facile de voir où sont les problèmes. Genre, Ant, mets tes lancers s'il te plaît. Puis, tu peux te concentrer sur la remise en jeu. Tu vois, genre, alors que contre les Kings, moi, elle me fait plus chier limite que celle contre les Kings.
Oui.
Dans le sens où il ne doit pas y avoir prolongation. Et à 3 minutes de la fin du match, t'es à plus 10 contre les Kings qui ont à peine envie de jouer au basket.
Oui.
Et tu te prends un 10-0.
Je suis d'accord.
Waouh la vache.
Mais peut-être que je suis...
Un 12-2, je sais plus.
Mais peut-être que je suis trop... que je passe trop la pommade sur les Wolves et que moi, j'avoue, je me suis dit en sortie de ces deux matchs, bon, ce sont deux énormes bourdes. Mais si je rejoue 70 fois ces matchs, il y a 67 victoires des Wolves.
Ça, c'est possible. Par contre, ce que je voulais dire, je suis d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire, c'est que face aux Wolves, elle me paraît plus...
Face aux Kings,
elle me paraît plus symptomatique des trucs sur lesquels les Wolves doivent bosser.
Oui.
Celle des Suns...
Non, c'est...
Ah, c'est un petit miracle de ouf. Celle des Kings, c'est pas vraiment un miracle en fait. C'est DeRozan qui rentre un gros tir. C'est Nick Clifford qui fait les bonnes défenses. Et les Wolves qui s'enferment dans des iso dégueulasses.
Malik Monk qui se bat plus que certains rebonds.
Gobert qui a beau prendre des rebonds offensifs, mais derrière il y a une mauvaise décision qui est prise.
Ouais.
Du repli défensif, tout à fait des fautes bêtes sur DeRozan qui se retrouve avec des N1.
Ouais.
Je veux dire, ça
et puis des balles perdues sans qu'elles soient forcées.
Là, quand je vois celui-là, je me dis un petit poste 1, un peu plus métier qui tient vers, c'est-à-dire Conley d'il y a 3 ans, là tu le perds jamais. Et en plus, tu peux te dire nickel, on a de quoi tenir les matchs et tout. Là, celle-là, elle m'embête dans le sens où voilà, je me dis ça c'est des travers. On voit bien, il faut qu'ils travaillent dessus. On a envie de dire, genre, ils sont à un meneur. Ils sont à un meneur de quoi, les Wolves? D'être en finale NBA? Enfin, d'être un candidat au final NBA?
Alors, ils sont double finalistes de conférence en titre.
Voilà, va falloir déjà y retourner potentiellement et faire mieux.
Malgré ce bilan-là de 18, là, je vous montre par rapport à ta question, Alex. Si tu prends le line-up Rudy, McDaniels, Edwards, Randle.
Le quatuor, là?
Le quatuor.
Ça marche, il n'y a pas de problème.
Il n'y a aucun problème. C'est un des meilleurs quatuors de toute la NBA.
Tout à fait. Le problème, c'est con.
Attaque,
c'est 5,
défense, net rating. Ce qui est con, c'est que c'est pas du 4 contre 4. Ouais. Voilà. T'es obligé d'être 5.
C'est
très dommage pour le sport du basketball. Donc, il leur faut en effet un meneur. Ce que je ne sais pas, c'est que c'est marrant la question que tu poses, c'est que est-ce que c'est le meneur ou. Est-ce que c'est mieux aussi si tu as un coach un peu plus rigoureux?
Peut-être, tout à fait.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des erreurs mentales ou de concentration aussi de certains joueurs qui, je pense, peuvent être évitées c'est pas des lapins de 5 semaines, hein, donc il y a des gars aussi, il faut qu'ils se réveillent. Mais je trouve que aussi que dans l'approche des matchs, quand on a fait la preview, j'étais assez inquiet parce qu'on avait ressorti dans le coup d'œil en rétro des éléments de novembre-décembre 2024,
ouais.
où on disait qu'on avait Anthony Edwards qui disait on n'a pas d'identité offensive, parfois on choque, parfois on craque, et on revient sur les mêmes éléments.
Oui, c'est vrai.
Et on est très dans le day-to-day de la NBA, on oublie ce qui s'est passé il y a une semaine, etc. Mais souvenez-vous, on a écrit dessus, on en a parlé avec Alex, on a fait des apéros en automne 2024. Et donc, parfois, je me demande si une nouvelle voix ne ferait pas du bien aussi. C'est très, ça a déjà été mentionné et c'est très douloureux, mais parfois, tu étais très toi-même remonté par la série, par exemple, face au Thunder, où tu avais l'impression que parfois les joueurs étaient livrés à eux-mêmes et où il n'y avait pas certains ajustements, et c'est pas facile parce que c'était le Thunder. Ça allait mieux sur les deux rounds d'avant, ils ont très bien géré les Lakers et ils ont plutôt bien géré les Warriors.
Ouais, ouais.
Mais tu vois, c'est marrant parce que ta question, est-ce que c'est le meneur ou est-ce que c'est aussi un autre coach, quoi, une autre voix?
Non, mais en fait, peut-être que l'un ne va même pas sans l'autre. C'est-à-dire que je dis pas que quelqu'un ferait mieux que personne peut faire mieux que Chris Finch. Je pense que Chris Finch a sa part de responsabilité, notamment dans certaines fins de match perdues ou dans ce début de saison un peu mid. Alors que cette équipe peut être bien mieux que mid. Je pense qu'il a sa part de responsabilité, notamment Terrence Shannon Jr., l'utilisation.
Après, il a été un peu absent, donc je sais pas comment.
Est-ce que c'est vraiment Dante DiVincenzo qu'il faut mettre titulaire à côté d'Anthony Edwards, quitte à pas mettre de meneur? Est-ce qu'il faut pas tenter d'autres profils? Jalen Clark ou des gars comme ça? Des gars un peu plus complémentaires. Je dis pas que Dante DiVincenzo n'est pas complémentaire d'Anthony Edwards, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres gars en fait. Shannon Jr.
Je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie. Je suis désolé, ça va être assez drôle parce que moi je me régale. Mais il y a un. Comment il s'appelle le meneur à Atlanta? Putain.
Triangle?
Non, tu sais, le mec qui a été signé cet été. Là,
ah, nickel Alexander Walker. Il a pas été remplacé. En fait, on avait dit, ils ont des joueurs à faire monter, des jeunes. Et ils ont choisi de payer Naz Reid et Julius Randle. Ils pouvaient pas payer Alexander Walker. Ok,
absolument,
très bien.
Absolument, on connaissait la situation financière.
Mais fais-les monter, du coup, vraiment, en fait, les Terrence Shannon Jr. ou les gars comme ça.
Ce que je veux dire par là, quand ça me fait sourire, c'est que littéralement, le profil idéal, là, pour garder Dante DiVincenzo sur le banc, c'est un mec à la nickel Alexander Walker. Là, pour être aux côtés de Hunt, un mec point of attack, defender, qui est capable de mettre ses 3 points et qui n'en a rien à foutre, qui peut vivre toute la soirée en ayant quelques touches de ballon. Je veux dire, là, Nick Alexander Walker, il me fait un début de saison à Atlanta, mec, je le
ouais,
sens très très fort.
Évidemment, il est expérimenté et tout, mais du coup, là, ça serait l'occasion. Moi je trouve, tu vois, je regardais les temps de jeu. Je trouve que la répartition
Finch, hein.
des rotations, il y a un petit truc à travailler.
Là, je te confirme.
T'as 15 minutes à Terrence Shannon Jr. et 15 minutes à Jalen Clark et 10 minutes à Rob Dillingham.
Ouais, match l'autre.
Genre, moi, et bon, Dante DiVincenzo qui a une trentaine de minutes, c'est pas vraiment ça le fond du truc, mais t'as 20 minutes encore à Mike Conley. Moi, je serais assez chaud, genre, allons-y gaiement là, fortement là. Si tu sens pas bien Rob Dillingham et que tu sais pas comment faire avec Conley, vas-y. Fous-moi 25 vraies minutes à Terrence Shannon Jr. et ou à Jalen Clark. On a des profils différents. Moi, j'aime assez bien le profil de Jalen Clark. Des gens vont me dire, ouais, mais c'est un peu un Jaden McDaniels en plus petit. Mais justement, en fait. Et tu files des responsabilités vraiment accrues à Anthony Edwards, mais avec un mec à côté de lui. C'est pas que Dante DiVincenzo peut pas le faire, mais au moins t'as un mec en plus. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. Les minutes, à mon avis, doivent être réparties différemment pour trouver un équilibre.
Je te suis. Et là-dessus, au moins, je crache pas mal sur Chris Finch, mais parce que ça fait quelques mois.
Parce qu'il les essaye, les types.
Parce qu'il les essaye, mais là où ça va dans ton sens quand même, c'est que Chris Finch en a parlé publiquement et qu'il a dit.
Ah, j'ai pas vu.
Non, mais t'inquiète, c'est juste qu'on avait parlé dans un raid d'apéro récent qu'il utilise l'ensemble de la saison régulière, dit-il, pour essayer de réduire l'écart entre les titulaires et les remplaçants.
Bon, ça se défend, ça. Hein.
Ça se défend.
Tout à fait.
Hein. Moi, je vais dire, tu sais quoi, si le mec, il dit, arrêtez de prendre la conf le 25 novembre, laissez-moi faire progresser les jeunes pour qu'ils soient prêts en avril, je lui laisse sa part de...
Pourquoi pas?
Seul petit problème, mon cher Chris Finch, si je peux me permettre, c'est que Alex en a parlé plein de fois, moi aussi, on est à l'ouest, et que pour une équipe qui a beaucoup d'investissements et qui a envie de, non seulement pas que retourner en finale de conférence, mais aller discuter avec OKC, les Lakers, Denver, Houston. Parce que là, ils sont finalistes de conférence 2 années de suite. Toi et moi et 90% des gens qui regardent la NBA, depuis 5 semaines, Alex, ils disent que l'élite de l'Ouest, il n'y a pas les Wolves qui sont mentionnés.
Non, pour l'instant, non. Non.
J'ai pas vu un mec dire que la phrase c'est Thunder, Nuggets, Rockets et Wolves.
Et ça va au-delà des résultats comptables. C'est dans le jeu.
Oui, c'est dans le jeu, bien sûr.
Au-delà des résultats comptables, dans le jeu, ils ne sont pas élites.
Exactement. D'où notamment moi le match où Denver est venu à la maison et je me suis dit bon ok, mais c'est quand même des retrouvailles face aux Nuggets, on y va. Et ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Je me suis dit putain, les Wolves encore les mêmes erreurs, encore les mêmes problèmes. Cet écart là en tout cas entre les remplaçants et je vais dire les titulaires plus Nasrid, hein, parce qu'on va quand même l'inclure, mais en gros cette espèce de groupe de jeunes dont tu parles là, Dillingham, Clark, Shannon Junior et compagnie, l'écart est trop grand entre le best 5-6 de Minnesota et la suite.
Ouais, mais ça pourrait, ils ont du talent, hein. Il y a moyen de trouver. En fait, peut-être que Finch pourrait avoir un choix plus tranché de Dante, c'est pas toi le titulaire. Désolé, tu vas être sixième homme avec Nasrid, tu vas être mon puncher de banc avec Nasrid. Moi, j'ai besoin de foutre un Jalen Clark ou un Terrence Shannon titulaire à côté de Anthony Edwards.
Ouais.
On va pas défendre tellement moins bien. Eh, ça va pas défendre tellement moins bien. La défense, elle est bonne. Elle peut même être encore meilleure, tu vois. Mais t'as déjà Gobert, t'as déjà Jaden McDaniels, Anthony Edwards, il chôme pas. Même Julius Randle, je trouve pas si dégueu.
Mais les quatre, le 4 là, le main 4 de Minnesota, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils font un début de saison, les pairs. Rudy, il est déjà chaud. Hein.
Ouais, voilà.
Randle, il est déjà chaud.
Donc
hein.
Pour moi, c'est vraiment une question de complémentarité et de quel profil tu veux ajouter dans ton 5 majeur. Et à mon avis, c'est peut-être pas Dante DiVincenzo qui attend. C'est pas pour le critiquer. Moi, j'aime assez bien son début de saison. Dans les fins de match, je suis moins sûr.
Oui.
Je veux bien qu'on discute des fins de match avec Dante DiVincenzo à côté d'Anthony Edwards. Moi, je suis pas contre un gamin dans ces cas-là. Un jeune, là.
Oui,
dans ces cas-là. Je suis pas sûr de.
Non, mais je comprends.
De Dante fin de match.
Surtout s'il veut jouer certains line-up sans Rudy avec Naz et Juice Randle et que tu vois. Je suis d'accord. Faudrait plus délier. Par contre, on vient de faire un apéro Warriors. On se posait des questions nanana, sur certains garçons. Alex, on va dire les choses très claires, on va parler français. Les Wolves, là, ils sont à 18, ils sont plutôt mid, ça se joue à quelques résultats. Hein. Ils pourraient être aussi à 12-6 s'ils se faisaient pas caca dans le slibard contre les Suns et Wolves. Mais
ils pourraient être devant les Suns, voire devant les Spurs.
C'est ça. Mais donc, Minnesota, vu les investissements qui sont faits, vu ce qui se passe en haut de l'Ouest, si les résultats restent comme ça, il n'y a que deux choix. Soit il y a un éventuel trade, soit il y a un coach qui saute.
Oh ouais.
Je ne vois pas cette équipe rester comme telle et se dire vous inquiétez pas, TKT, on va être entre 6, 7 et 8 à l'ouest et essayer de s'en sortir au premier tour.
À titre perso, là tout de suite, je miserais plus sur le trade. Je veux dire, en cours de saison.
Eh mais si oui, tu fais quoi?
De quoi?
Bah tu fais quoi? Tu cherches un poste 1, mais contre quoi? Contre qui?
Ah bah,
LaMelo,
c'est le choix du front office, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui c'est que t'es prêt à lâcher? Est-ce que t'es prêt à lâcher Nasrid en te disant on va travailler notre rotation différemment et on a déjà du bac court et tout, où tu mets Nasrid et un jeune du bac court pour avoir un vrai gros poste 1? Gros, à voir ce que c'est exactement, mais est-ce que t'es prêt à faire ça ou est-ce que c'est une trop grosse erreur parce que Nasrid est trop important en sortie de banc? Peut-être, hein. Peut-être que Nasrid est trop important, il est fort quand même. Hein.
Il est
fort. Hein.
Il a des coups de chaud, ça a mal démarré, mais quand il a commencé à prendre chaud, il nous a envoyé des.
Il fait du bien quand même l'autre.
Oh non, bien sûr, en sortie de banc, c'est un des meilleurs sixième hommes de.
Tabasse les secondes unités adverses dans l'ensemble.
Non, mais c'est sûr.
Donc, est-ce que c'est vraiment ça le trade que tu veux faire? Sinon, c'est quoi de toute façon? Après, sinon, si tu trouves pas le trade à faire, moi j'ai un peu peur du on change de coach parce que les résultats sont mid, mais en fait le nouveau coach on lui donne pas forcément tellement plus de un meilleur. En gros, est-ce que tu crois vraiment qu'un autre coach va faire tellement mieux que ça avec le même groupe? Peut-être. Hein.
Pas là d'ici 6 mois.
Moi c'est la question que je me pose.
Eh ben je pense que d'ici 6 mois, non. Genre là, si l'idée c'est de changer de coach et d'espérer d'aller gagner le titre là, non, non. C'est comme les Nuggets qui se séparent.
Cette année, c'est mort, il est pour les Suns.
Tout à fait, c'est un peu compliqué.
C'est mort.
Non, mais regarde par exemple, les Nuggets, tu vires ton coach à une semaine de la régulière, c'est pas pour dire on va gagner le titre dans 3 mois.
Non, mais ils y pensaient quand même.
Ils y pensaient parce qu'ils ont le meilleur joueur de la planète, mais tu vois ce que je veux dire, ils prenaient en considération le fait que faire un aussi gros changement, c'était banquer notamment sur l'off-season à venir, les recrutements qu'on a venus et donc le début de saison des Nuggets qu'on voit là, hormis des blessures qui est quand même élite.
Oui, oui.
Donc moi je pense pas à là, je pense à dans un an. Donc, je sais que je suis dur avec les... Bastien, moi j'en ai
le cul. Stéphane Hall, c'est mort cette saison.
Non, mais
fin novembre.
En tout cas, je ne vois pas. Je pense que l'effectif est élite, mais je ne pense pas que cet effectif, avec ce. Même s'il y a des progrès et des tests, je ne pense pas que ce groupe-là, face à la densité de l'Ouest, va faire mieux avec ce coach. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle voie et une nouvelle chose qui, notamment, évite d'avoir ce qui se passe sur le début de saison, c'est-à-dire promenons-nous dans les bois, l'élite est en bas de chez moi, c'est-à-dire en gros, bah, c'est pas grave, on va perdre ce match parce qu'on va tabasser les Hornets et les Wizards. Je pense que ce n'est pas possible. Cette équipe devrait être capable d'être vraiment élite de manière régulière. Et si ça se trouve, là, moi, mon discours, il va être envoyé aux chiottes en janvier parce que c'est une équipe qui souvent est diesel et donc va nous faire une deuxième partie de saison de malade. Hein. C'est le genre. Hein.
C'est possible.
Les plus grosses critiques sur les Wolves, elles sont entre novembre et janvier.
C'est pour ça, en fait. Je me dis.
Mais je ne pense pas que là, si je me ramène en playoff, je vais me dire genre, ah, formidable. Vraiment,
ouais, parfois, je me dis que c'est peut-être juste un petit truc de rotation à modifier pour donner plus de confiance et pas cantonner les jeunes à 10-15 minutes, mais en fait qu'il y en ait au moins un des trois jeunes à développer potentiellement qui devienne un vrai gros gars de la rotation.
Et
un
donc, gars toi, le
25-28 minutes.
Le gars sur lequel tu miserais le plus, ce serait Terrence Shannon ?
Je pense, ouais. Parce que je pense que Terrence Shannon Jr.,
Girardin,
il a ce petit truc offensif. Ce petit côté papate offensif qui va peu décharger dans certains. Il a pas peur. Et il a pas peur et il a une papate. Voilà. Et ben ça, pour décharger Anthony Edwards dans les moments, dans certains moments, ça peut être pas mal. Et défensivement, je préfère Jalen Clark défensivement. Mais ça va. C'est pas minable. Si t'arrives à faire avaler ça à Dante DiVincenzo et que Dante DiVincenzo devient ton go-to guy de banc avec Nazrid, t'as déjà un set qui marche pas trop mal, auquel tu ajoutes du Dillingham, un peu de Conley et puis du Jalen Clark du coup.
Tout à fait. Si j'en crois le théorème des Wolves sur ce début de saison, on a très très hâte de regarder le calendrier. Je vous le montre tout de suite. Parce que Boston, pourquoi pas?
Bah, pourquoi pas, mais attention.
Et attention.
Boston, non, ils ont pas 50% quand même, Boston. Ils ont 50% Boston ou pas?
C'était fou quoi.
De la 18.
18.
Ah, ils sont à plus de 50%. Donc c'est mort, Boston.
Ça joue les playoffs, hein, je dis Boston. San Antonio, il n'y a pas Wemby. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est qu'il faut aussi prendre certains trucs. T'es à domicile, hein, attention, hein, les Celtics.
Il faut les battre.
Mais il faut les battre.
Il faut battre là.
Même si De'Aaron Fox est très très fort.
Deux fois chez les Pelicans, il faut en prendre au moins un des deux.
Hein. On est d'accord. Les Clippers, c'est plutôt le moment où les prendre en ce moment.
Disons que oui. Normalement, oui.
Normalement.
Ah bah oui, je te confirme.
On est d'accord. Et je mets juste Phoenix, désolé, mais avec Memphis dans le même turbo. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir aussi quand même montrer à un moment qu'au classement, t'es pas en train de discuter avec les Suns, mais t'es juste meilleur.
Non mais complètement, attends, c'est quoi ces conneries?
Tu vois, on va pas commencer à dire non, c'est les Suns, excusez-moi, celle-là, censé tabasser les Suns.
C'est un match qui est... En fait, le truc, c'est que le truc, moi, je m'y attendais pas forcément, c'est à quel point ces Suns sont quand même assez chiants à jouer.
Très.
Mais par contre, les Wolves, là, en termes de niveau de jeu, de qualité, de... Oh!
C'est censé les fracasser.
Oui, quand même.
Et il va falloir prendre ces matchs.
Ça me fait marrer, en fait.
Parce que derrière, s'il y a Pepe Yanis qui revient, donc il va être là juste après OKC. OKC, les Bucks, les Knicks, les
Noël,
Nuggets.
Noël pas ouf.
Noël pas zinz.
Ouais.
Avant de faire un petit road trip là juste ici. Donc, Minnesota doit vraiment prendre là, sur les 5-6 prochains matchs l'opportunité de vraiment être sérieux, quoi. Être sérieux et nous proposer quelque chose de vraiment... régulier. Je trouve cette équipe extrêmement irrégulière pour une équipe qui a été plutôt régulière dans ses résultats ces trois dernières années.
C'est vrai. Ça, j'entends.
Et ça, souvent, j'avoue, dans l'histoire de la NBA, ce n'est pas une histoire d'effectif. C'est souvent quand la voix, elle commence à s'éteindre au niveau du board.
Ça peut. Non, mais ça peut. Ça peut, moi, je... Ça peut.
Ou est-ce que c'est une histoire de leadership?
À titre personnel... Ça peut aussi Anthony Edwards performer. En fait, le problème d'Anthony Edwards aussi, c'est qu'il doit performer, voire surperformer.
Je te confirme.
Depuis déjà un bon moment pour entretenir, surtout depuis le début de déclin visible de Conley. Et en fait, oui, il fait des super stats et il envoie quand même du pâté. Mais en fait, est-ce que ça le dessert aussi un peu? C'est-à-dire que du coup, Anthony Edwards qui rate deux lancers, qui rate la remise en jeu, qui est pas bon dans le money time face aux Kings, ça commence à faire beaucoup.
Ça fait beaucoup.
C'est moche, alors que c'est un joueur ultra fort. Donc, à titre perso, moi, je les vois faire ni trade, ni changement de coach, bah, sauf s'il y a une série de défaites de malade, tu vois, mais sinon, non. Je pense que ça change pas, ça bouge pas. Pour l'instant. En tout cas, pas cette saison.
Voilà. Moi, j'ai peur que tu aies raison, et donc j'ai peur. Parce que je pense que ce qui demande des coronesses, c'est ce qui s'est passé à Denver la saison dernière. c'est que t'es pas censé te séparer de Mike Malone. Mais tu te rends compte aussi que, bon, après, c'est différentes histoires. Mike Malone, il pouvait même pas être dans la même pièce que Calvin Booth.
J'ai pas la sensation que Chris Finch ait forcément perdu son groupe.
J'irai
j'ai pas cette
sensation. C'est pas perdre son groupe, mais c'est parfois, t'es pas obligé d'avoir perdu le groupe pour avoir besoin d'une nouvelle voix.
Ok.
Parfois, juste, c'est important d'avoir une nouvelle voix pour comprendre quel est le plafond. J'ai le sentiment d'atteindre mon plafond avec ces Wolves.
Je comprends. Non, mais je comprends. D'ailleurs, peut-être que ces Wolves sont à un plafond.
Genre, là, quand on a fait les 30 prévues.
Après, est-ce que le plafond, il est pas sur le quatuor finalement ? Qui est fort, mais qui aurait un plafond aussi.
Peut-être parce
qu'on parle tout le temps du poste 1, mais.
Oui. Mais regarde à l'ouest.
T'as des équipes qui n'ont pas un gros meneur et qui performent. Hein.
Bien sûr. Regarde à l'ouest. On a fait les 30 prévues.
Oui.
Le tableau des Wolves. On a surtout fait un tableau des départs.
Oui.
On n'a pas fait de recrutement.
Non, on a prolongé des gars et on a dit on mise sur des jeunes pour remplacer le seul gros départ.
Absolument. Denver, on a dit quoi ?
Ah non, mais attends, Denver, arrêtez, s'il te plaît. Denver, ils ont fait un été de malade.
Denver, on a dit quoi ?
Ils ont fait un été de malade.
Pourtant, ils auraient été capables de dire on a le meilleur joueur du monde, on a un quatuor qui est dans la continuité.
Ils ont bougé.
Gordon, Jamal Murray, Christian Brown, on va essayer, etc. On a essayé de bouger fort. C'est une grosse prise de risque. Houston, on a fait quoi ?
Non, Houston, ils ont bougé. Les Lakers, ils ont
un peu bougé. Il y a eu un petit peu de
mouvement,
mais bon, ton intersaison, c'était quand même Luka.
Après, ils avaient pécho Luka, c'est ça, exactement.
Donc, tu récupères juste Ayton et Smart, mais c'est surtout Ayton et Laravia là, qui font plutôt un début de saison où tu es quand même content de ce qui se passe.
Ouais.
C'est bien.
Ouais.
Donc, moi, le problème, c'est pas que moi, je suis content pour les Wolves d'avoir ce quatuor qui fonctionne bien et peut-être en effet, il atteint un plafond. C'est que si eux, ils ont atteint un plafond, le reste de l'Ouest, par contre, eux, ils grimpent. Hein.
Bah, ça continue.
Ça grimpe. Hein.
Ça continue.
OK, si c'est encore meilleur. Houston, ça s'est bien renforcé. Denver, ça s'est bien renforcé. Les Lakers, merde, ils sont en train de trouver
les
des automatismes.
Se sont bien
les
renforcés.
Spurs se sont renforcés. On va commencer à parler de qui après dans le classement, là où ils vont se dire ah bah, tu sais quoi, nous, notre couture, on peut aller chercher.
Mais donc
ça
là, ils ont les Warriors au cul. Pour peu que les Warriors se me remettent un peu dans
voilà.
le coup, un peu en route.
Après, là, on vient de faire un apéro.
C'est la merde pour les Wolves. Hein.
Oui, après, on a fait un apéro Warriors. Non. On a dit genre.
Je suis d'accord.
Mais c'est chaud. Et donc, c'est pour ça que j'ai peur. Que Minnesota puisse. Et quand je dis j'ai peur que tu aies raison, c'est que si ça se trouve, ils vont se dire non, mais nous, TKT, à partir du All-Star Break, souvent on monte en température et ça va aller.
Ça va le faire.
Ça va le faire.
La défense va se durcir et on va continuer à attaquer du mieux qu'on peut et ça va le faire.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu es plutôt content d'avoir fait l'intégralité de la saison régulière et des playoffs avec Chris Finch ou est-ce que tu es content d'avoir testé une nouvelle voie ? Et je trouve que Denver a été culotté, mais que ça va porter ses fruits. Sincèrement.
Ouais, peut-être. Peut-être après Denver, ils avaient vraiment un problème
à
l'interne.
Non, c'était interne, c'était l'enfer.
Tu vois ?
Ouais.
Après, peut-être qu'il y a des trucs équivalents chez les Wolves, mais je ne pense
non,
pas.
Non, ils
j'ai
aiment
pas l'impression.
Finchy. Ils aiment bien Finchy, mais un peu trop. Tu vois ? J'aime
peut-être.
Bien aussi les coachs qui.
Peut-être que lui, il les tabasse pas assez non plus. Après, moi, je pense qu'il devrait commencer par des choix plus tranchés en rotation sur les jeunes. Encore
oui.
plus tranchés, en fait. Allons-y. Pas d'histoire là, on y va.
C'est quoi l'écart de minutes là entre les pépères là, fais voir.
Bah disons que les jeunes ils sont à 10-15 minutes, tu vois, Terrence Shannon, Jalen Clark, Rob Dillingham, c'est du 10-15, au mieux c'est, ouais c'est ça, c'est 15. Au mieux c'est 15, et Conley a encore 20 minutes, moi je trouve que c'est beaucoup, et Dante DiVincenzo au-dessus des 30 minutes, alors c'est vrai qu'il est assez efficace au tir et tout, mais après il est limité dans d'autres domaines, je me demande si là il n'y a pas des minutes à gratter
en fait,
et à filer, en fait les 20 minutes de Conley, honnêtement...
Mais c'est aussi pour ça que... je me souviens du. C'est pour ça que je vois le nom qui apparaît. On avait parlé au camp d'entraînement. C'est pour ça aussi qu'ils ont testé Bones Island. Qui a des très grosses limites. Hein, on va pas se mentir. Mais où, du coup, quand tu commences à dire. Pff, j'ai pas de viande, mais on va essayer du jambon, de la saucisse, des machins. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de McConney. Donc tu peux tenter des Bones Island et des Rob Dillingham. Mais qui est vraiment satisfaisant là-dedans ?
Si ça se trouve, on parle beaucoup de Chris Finch. Mais si ça se trouve, le management des Wolves, on dit non, les gars, laissez-nous déjà monter un trade. Voir. Contre qui, comment, on voit. Est-ce que tu vises un gros poisson ou est-ce que tu vises pas un trop gros poisson en proposant du jeune avec ce qui te reste en pic de draft ? Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que le management va commencer par là.
Oui, je cherchais le coaching staff. C'est qui l'assistant de...
De Finch ?
Ouais.
Je sais pas si tu peux trouver ça ici, là.
Tu peux regarder au cas où ? Je vais regarder juste sur la télé.
Attends,
vas-y, pendant ce temps-là, parce que j'aimerais juste voir le nom d'un potentiel intérimaire. Parce que s'il y a remplacement, peut-être que les fans des Wolves vont me dire non mais gars stop avec cette rengaine, en fait on ne va pas. Ah, c'est Jeff Newton, je l'ai là, grand-fils de Isaac, formidable,
ouais.
Type formidable.
Et
il y a
Mika Nori
qui fait les sideline interviews là, Il y a Pablo Prigioni.
T'aimes pas Pablo
Prigioni? Si, j'adore Pablo Prigioni. En fait, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que d'ailleurs, Mika Nori, il avait fait un ou deux interviews, je crois, les fans où vous me dites, quand il y a eu des postes de coach qui ont été libérés cet été.
Ok.
Il y a certains qui se sont intéressés. Je vous mets juste les noms sous les yeux pour que vous vous puissiez dire si au cas où il y a un truc, on avait parlé chez Trash Talk. Voilà. Faites-vous plaisir sur les noms des assistants. Faut-il conserver Finch ou pas? Faut-il faire un transfert? En tous les cas, pour le moment, c'est assez mid. Faut-il juste rester patient parce que, comme on a dit à Golden State, le bateau va se stabiliser, ou est-ce qu'on a atteint un plafond?
Ah, moi, je pense quand même que c'est une équipe qui peut trouver du rythme et oui, commencer à continuer à tabasser les petits en prenant quelques matchs contre les gros. Quand même. Et donc, par définition, se retrouver à améliorer son bilan.
Ce sera un bel arbre pour cacher la forêt.
Ouais. Ben oui, mais ça, c'est... Voilà. Est-ce que le sujet de l'arbre qui cache la forêt, tu le solutionnes par le coach? Peut-être.
Dites-nous, fans de Minnesota, ce que vous en pensez. Je vous montre juste, avant qu'Alex dise au revoir une dernière fois, le calendrier à venir. Comme vous le savez, le théorème, il est simple. Si vous êtes 500 or above, vous allez gagner. Et si vous êtes en dessous, ça va barder. On espère que Minnesota va être beaucoup plus régulier dans les résultats. On se retrouve bientôt. Allez, pareil, hein, nouvel an pour voir ce que ça donne après ce road trip dans la conférence Est. Les Wolves, on attend nettement mieux.
Ouais, on attend mieux.
Allez, les gars, d'accord. On fait des gros bisous, à la prochaine.
Ciao.
Ciao.